Chapitre 5. Un regard de Marguerite. Une demi-heure s'était écoulée. Joulou n'avait point cédé à l'invitation de l'étude de banc. Au contraire, il avait refermé sa fenêtre et restait assis, bien tranquillement, devant la table de la cuisine. La première bouteille de Beaune touchait à sa fin. Les deux cuisses du poulet et la carcasse avaient disparu. Joulou était déjà rouge et animé. Nous ne disons pas gai, car le murmure de voix qui venait du salon, où le piano ne chantait plus la romance du saule, lui mettait des rides au front, tandis qu'il écoutait, avec un mélancolique regret, le refrain obstiné de la bamboche voisine. « Allons, chantons, trinquons, buvons !» Quant à avoir du poulet comme celui-là, à la tour de Nesle, pensa-t-il pour se consoler, « Bernic, c'est une maison d'un sou. Est-ce que je vais laisser les deux ailes pour Marguerite ?» Il ne parlait point de Roland dans son monologue, que ralentissait un solide travail de mastication, mais ce n'était pas faute d'y songer. Déjà, trois ou quatre fois, Joulou s'était levé pour pousser une reconnaissance sur la pointe de ses gros pieds jusque dans le corridor. Chaque fois, il en était revenu plus sombre, quoique sans diminution notable d'appétit. Il prit le corps du poulet afin de ménager les ailes et se dit « Ah, ce n'est pas que j'y tienne autrement, hein, Marguerite, mais celui-là me déplaît !» Marguerite était demi-couchée sur le divan, les deux bras arrondis sous sa tête. Ses yeux rêveurs semblaient suivre au plafond de vagues images qui fuyaient. « Non pas pur comme de l'or, disait-elle à Roland, qui l'écoutait subjugué. Le moindre choc entame l'or. Il faut avoir de l'or, il ne faut pas être d'or. Je suis d'acier. J'ai eu peur de moi-même, parfois, en me sentant si forte et si vulnérable. Que serait-il advenu si mon père, au lieu de mourir vaincu, était maintenant, comme il ne pourrait manquer de l'être, par le seul bénéfice du temps, un général heureux et glorieux ? « Ah, je n'en sais rien, et peu m'importe. J'ai vu le monde, ce qu'ils appellent le grand monde. J'ai fait plus, j'ai été du monde. J'aurais pu y rester, enchaîné par un lien de diamants et de fleurs. Le monde était comme vous, Roland, il me trouvait belle. Moi, je le regardais une fois avec les yeux de mon âme. Il me fit mépris et pitié. Je vous ai dit, je n'ai pas de cœur, cela est vrai. » Dans le pauvre sens que vous attachez tous à ce mot, cela signifie que ma conscience se révolte à l'idée d'avoir pour maître un homme. « Mais si l'homme était votre esclave !» l'interrompit Roland. Toute sa passion était dans le tremblement profond de sa voix. « Vous êtes bon, murmura-t-elle, comme si un souffle soudain eût détourné le cours de sa pensée. « Je n'ai jamais vu un jeune homme si beau que vous, et j'entends par beauté tout ce qu'on aime. Il y a dans votre prunelle veloutée la vaillance d'un chevalier des grands jours, la chère folie d'un poète. Votre taille est souple et fait songer aux joies d'amour que j'ignore, que je dédaigne, mais que je devine et qui ont parfois troublé ma paix quand la pensée d'aimer me venait avec votre souvenir. » « Est-ce vrai, Marguerite? Est-ce vrai ?» balbutia Roland, dont les mains se joignirent frémissantes. « Je suis pure comme l'acier, » reprit-elle, en affermissant sa voix, pénétrante plus qu'un chant. « Je suis restée pure, intacte et blanche au milieu de l'orgie qui m'entoure et que je traverse volontairement. Je suis libre. C'est ma liberté qui fait ma force. Je bénis Dieu chaque fois que je regarde mon âme. Entendez-vous, Roland, et comprenez-vous ? Oh, si je comprends, soupira notre pauvre Buridan, la poitrine oppressée par une voluptueuse angoisse. » Marguerite ramena sur lui son regard franc jusqu'à la rudesse. « Non, vous ne comprenez pas, dit-elle. « Que faut-il faire ? S'écria Roland avec violence. Elle lui tendit la main. Quand elle eut la sienne, elle pesa sur lui doucement, de manière à l'attirer jusqu'à elle. Il n'y avait pas dans tout l'être de Roland une fibre qui ne tressaillît. Elle le baisa au front. Il chancela. « Je suis plus vieille que vous, » murmura-t-elle. Puis, baissant à demi ses paupières, qui laissaient sourdre du feu, « Avez-vous senti ? » ajouta-t-elle. « Mes lèvres sont froides. »« C'est vrai, » dit Roland, « vos lèvres sont froides. » C'est que tout mon sang est là, prononça lentement Marguerite en posant la main sur son cœur. Que disais-tu donc, Marguerite adorée? S'écria Roland, qui l'étreignit dans ses bras. Laissez-moi, ordonna-t-elle tout bas, et Roland se releva comme si une main surnaturelle l'eût saisi aux cheveux par derrière. Je disais, reprit-elle d'un accent glacé, que je n'aime pas, que je ne veux pas aimer. Je parlais de mon cœur qui est de pierre et de mon âme où je descends avec orgueil. Les jours viennent où il ne sera plus malséant d'oublier une femme qui cause philosophie. Que disais-je auparavant? Ah, je parlais de Dieu, que je remerciais de m'avoir créée forte et intrépide. Auparavant encore, ah, je disais qu'il n'y a rien au monde de si beau que vous, Roland, et c'est vrai, rien que j'ai vu du moins, si ce n'est moi. Les riches contours de son cou s'accusèrent, tandis qu'elle redressait la tête d'un mouvement orgueilleux et lent. Roland voyait des rayons autour de son front. « Vous ne comprenez pas, reprit-elle en baissant les yeux avec une dédaigneuse attitude. Personne ne comprend celles qui mettent le pied hors du sentier battu, folles ou perverses. On leur donne le choix entre ces deux injures. Ce qui peut exister dans leurs pensées, nul ne prend le souci de le chercher. Si elles disent cependant, à l'oreille de ceux qui les admirent, comme on applaudit un ténor au bouffe ou un jongleur au cirque, si elles disent « J'ai ma tâche qui est grande, mon dessein qui est hardi », les sages raillent, les fous comme vous, Roland, remuent le fouillis de leur romanesque lecture pour savoir à quelle héroïne idiote il faut comparer Marguerite. Il ne faut comparer Marguerite à rien, entendez-vous, Roland, ni à personne. Vous êtes beau comme elle, mais elle est forte. Êtes-vous fort ?
« Cornebœuf !» grondait le vicomte Joulou dans la cuisine. « Elle a dit qu'elle n'avait pas faim, et le poulet vaut mieux qu'elle. Ah, il n'y a ni à Paris, ni à Pleurmel, ni même à Rome, une coquine aussi coquine que celle-là, j'en suis sûr. Puisque j'ai bu les deux bouteilles, je peux bien manger la dernière aile. »
La seconde bouteille de Baude, en effet, était vide. Le verre du Joulou aussi. Il mit la dernière aile dans son assiette, et se leva pour aller chercher la cruche de bière. « Comme on dit, pensa-t-il, j'ai bu mon pain blanc le premier. Meusel est ennuyeuse, l'étude de banc. Allons, chantons, trinquons, buvons. Ah, voilà une grandeur qu'il radote ce refrain. C'est monotone. Si je n'avais pas peur de perdre ma position ici, j'irais les égayer un peu. » Il plaça la cruche sur la table et se dirigea sur la pointe des pieds vers le couloir. Quand il revint, il avait du sang aux joues. Il grondait. « Celui-là me déplaît. Elle a fermé les deux portes. Je ne peux pas entendre ce qu'ils disent. Si quelqu'un voulait me prendre ma situation, tant pis pour ce quelqu'un-là. Il n'est pas le prince russe, que diable. Non. Ah, mais si c'était le premier mari. » Il cligna de l'œil à l'aile du poulet qui attendait dans son assiette. Elle était bonne, il en convient franchement. Cependant, un trouble venait dans son épaisse cervelle, et ce fut avec mauvaise humeur qu'il entama la cruche de bière. Roland était assis maintenant sur le divan auprès de Marguerite. C'était en vérité un couple merveilleux. Jamais théâtre n'eût pu trouver deux plus brillants acteurs pour jouer ce mystérieux prologue de la tour de Nesle qui est raconté dans la scène du cachot. Marguerite à 20 ans, Dionnet de Bournouville à 18 ans, le page et la princesse. Pas si épaisse la cervelle de la brute. Roland était peut-être le premier mari. Marguerite le regardait avec une souriante bonté, comme cette autre tigresse, Élisabeth Tudor, devait regarder le blond Dudley, comte de Leicester. Quant à Roland, sa physionomie exprimait un naïf et religieux respect. Marguerite avait parlé, Marguerite avait menti, ce qui est tout un. Marguerite avait raconté je ne sais quelle fable, ajoutant au bout « Ceci est mon histoire ».« Que pensez-vous de moi ? » demanda-t-elle. « Je pense, répondit le pauvre page, que vous êtes un ange. » Elle sourit amèrement. « Ange déchu, alors, de par l'arrêt du monde, ange dégradé à qui votre mère ne voudrait pas même entr'ouvrer à la porte de sa maison. « Ah ! » fit Roland, qui eut comme un élancement au cœur. « Ma mère !» Marguerite le vit terriblement pâlir. « Où dansez-vous cette nuit ? » demanda-t-elle d'un ton qui coupait court au précédent entretien.
Je comptais aller où vous irez, répondit au hasard le page. Est-ce que la maman permet cela? Interrompit encore la reine. Maman, ce nom si doux, si bon, si cher, quand il tombait des lèvres émues de notre Roland, comment exprimer cela? Ce mot sonnait ici comme une brutale profanation.
Je vous en prie, Marguerite, murmura Roland, ne parlons pas de ma mère.
Elle pâlit à son tour. Il ajouta, elle est malade, bien malade.
Tais-toi, l'interrompit Marguerite brusquement, et comme une parole s'échappe du cœur à l'insu de l'esprit. Ne parlons jamais, en effet, de ce qui peut nous séparer.
Roland releva sur elle ses yeux enivrés. Un instant, leurs regards se confondirent. Celui de Marguerite brûlait.
Si je pouvais espérer, commença Roland, avec tout l'élan de sa jeune passion.
N'espère rien, l'arrêta durement Marguerite. Je cherche un homme. Tu serais un obstacle sur mon chemin, car je t'aimerai.
Je sens que je t'aimerai avec folie.
Mon Dieu, pria le page, être aimé d'elle.
Mais sais-tu ce que cet espoir-là ferait de moi, Marguerite?
S'interrompit-il impétueusement.
Sais-tu ce dont je serais capable si tu me disais « Fais, et tu seras aimé ».
Serais-tu à moi, bien à moi? Interrogea-t-elle, tandis que l'amour languissait dans ses grands yeux.
Tout à toi.
M'obéiras-tu?
En esclave.
Serais-tu fort?
Comme un lion.
Hardi?
Aveuglément.
Jusqu'où?
Dis-toi-même.
Jusqu'à la mort?
Ah, n'est-ce pas cela? S'écria Roland, rayonnant de jeunesse et de joie.
Marguerite lui mit sa main froide sur le front et prononça lentement « Jusqu'au crime ». Roland s'affaissa sous le poids de cette main et de ce mot. Mais la foi de son âge était si robuste qu'il se releva presque aussitôt.
« Marguerite, murmura-t-il, cesse cette épreuve. Je t'ai deviné. Tu conspires. »
Le rire est tout près de la passion. La naïveté profonde de certains élans frise à chaque instant le ridicule. L'industrie du théâtre moderne, n'ayant plus rien à démêler avec la grande comédie qui est faite, a trouvé dans la parodie des sentiments une source inépuisable de comique. On ne savait pas autrefois que les choses tristes étaient si gaies. Le premier qui a noué une queue rouge à la nuque de nos jeunes enthousiasmes était peut-être un maraud, mais il a découvert une mine de houille marchande sous le filon épuisé qui n'avait plus de diamants. Cela mérite un brevet, sinon une statue. Certes, le mot de notre pauvre grand garçon, cherchant une explication noble à l'énigme insensée ou criminelle que lui proposait Marguerite, ce sphinx de l'université sauvage, certes, disons-nous, ce mot était drôle en soi. « Tu conspires !» Monsieur Prudhomme a de ces aperçus soudains qui jettent une exhilarante lumière sur les situations les plus tendues. Marguerite conspirant. La Marguerite de son maître de piano. Contre qui, bon Dieu, et en faveur de quoi? Permettez, je sais, des conspirations très sérieuses. Car voilà encore une chose qui est sérieuse ou burlesque à la volonté du hasard. Je sais de très historiques conspirations où Marguerite, telle que Dieu l'a faite, et même d'autres Marguerites, moins belles, moins braves, moins avisées, ont pu entrer, prospérer, fructifier à la barbe des contemporains et de la postérité. Des goûts, des couleurs et des conspirations, il ne faut jamais rien dire. Seulement, cette splendide Marguerite ne conspirait pas, au moins dans le sens vulgaire du mot. Elle ne travaillait ni pour un roi déchu, ni pour une république exilée. Elle était femme d'affaires, et ne voyait dans l'univers entier qu'un idéal, Marguerite. Marguerite Sadoulas, millionnaire ou duchesse, les deux à la fois s'il se pouvait. Marguerite reine dans un palais. Marguerite châtelaine d'un Chenonceau ou d'un Chambord. Marguerite entourée d'adorateurs. Marguerite, assourdie par les bravos sur ce grand théâtre du monde, elle qui était sortie un soir, les yeux rouges et le cœur meurtri, du petit théâtre gascon où les sots l'avaient sifflé. Elle avait, pour atteindre ce but radieux, deux moyens, pas davantage, le prince russe et le premier mari. Troubler l'État n'était point sa vocation. Elle eut néanmoins, et sans hésiter, refait 93, si 93 lui eût promis son château et son palais. L'idée de la conspiration lui plut. Elle s'était trop avancée vis-à-vis de cette âme saine et loyale
qui pouvait bien glisser sur la petite folle des juvéniles entraînements, mais que certains mots devaient arrêter soudain comme un choc éveille les rêves. Elle le sentait. On lui ouvrait une voie pour faire retraite. Elle y tourna sans hésiter. « Ceci est au-dessus de votre jeunesse et de votre inexpérience, Roland, » dit-elle en baissant les yeux et la voix. « Dieu m'est témoin que je n'ai pas voulu vous engager dans cette route au bout de laquelle est l'inconnu, la puissance ou l'échafaud. » « Oh, je ne suis pas ambitieux, » répondit Roland, beau de candeur chevaleresque, « je n'ai pas peur de mourir. Si j'allais, ce serait pour vous suivre, si haut que vous montiez, si bas que l'injuste fortune puisse vous précipiter. » Marguerite réfléchissait. Le thème était large et rendait son chemin facile. « Dans les conspirations, » reprit-elle, « on fait parfois des choses. »« Vous ne pouvez que bien faire, » interrompit Roland. Puis il ajouta d'un certain petit air dogmatique, « Je ne suis pas à savoir que la morale des conspirateurs n'est pas la morale commune. » Le nerf de la guerre poursuivit la belle fille. « L'argent, » l'interrompit Roland d'un air scélérat. Qui n'a joué au Talleyrand au moins une fois dans sa vie? Marguerite fut sur le point d'éteindre sa lanterne. Elle crut avoir trouvé son homme. « Écoutez, » reprit tout à coup Roland, « je ne vous demande même pas pour qui vous combattez. Je ne sais rien en politique. Les champs de liberté me font battre le cœur et ma bonne mère sait me tenir éveillée au récit des gloires impériales. Mais il me semble que vous devez tenir à quelque grande famille. Moi aussi j'ai eu parfois ce rêve de magnificence du passé. Ma mère elle-même a laissé échapper des demi-mots. Il y a un lien entre moi et ces hommes qui criaient Dieu et le roi dans les guérets de la Vendée. J'en suis sûr. Peu importe le drapeau, c'est vous qui serez mon drapeau. Je l'ai dit et je le répète, où vous irez, j'irai. Mais ayez pitié de moi, Marguerite. J'étais venu ici le cœur bien troublé. Je voulais savoir et, quand je vous ai vu, j'ai subi le charme, comme toujours. Les paroles se sont arrêtées sur mes lèvres, et pourtant, demain, je me bats à cause de vous, Marguerite. » Il fallut ce dernier mot pour réveiller l'attention de la belle créature qui déjà se repliait sur elle-même et bâtissait en Espagne son éternel château. « Vous vous battez pour moi ?» répéta-t-elle, tandis que ses yeux s'animaient. « Un homme vous a calomnié, » poursuivit Roland. Elle dut rire en elle-même, mais une expression de hauteur se répandit sur son visage. « Oh, je savais bien !» s'écria Roland, qui répondait en ce moment au témoignage du madras accusateur. « Vous n'avez jamais été chez M. Léon Malvois, n'est-ce pas ?» Le premier mouvement de Marguerite fut de répondre « Jamais, elles sont toutes ainsi. » Leur habileté est de nier même l'évidence vis-à-vis des aveugles qui demandent passionnément à ne point voir le soleil en plein midi. Mais elle se ravisa, parce qu'elle était comédienne et qu'un motif de scène se présentait. « S'agit-il de Monsieur Léon Malvois ?» demanda-t-elle. Et sans attendre la réponse, elle ajouta d'un ton de sereine autorité, « Ah, Roland, je vous défends de vous battre contre Monsieur Rayon Malvois. » « Je l'ai provoqué. Il vous pardonnera. » Marguerite, fit Roland, qui se redressa droit comme un nid, « excepté le bon Dieu, ma mère et vous, je ne connais personne à qui je veuille faire des excuses. » Elle sourit, car il était vraiment beau dans sa crânerie exempte d'emphase. « Enfant, murmura-t-elle, toi qui t'offrais à me servir, voudrais-tu te mettre du premier coup entre le succès et moi ?» Il n'en fallait pas plus que cela. Notre Roland tomba de son haut, comme on dit, et resta bouche béante. C'était la conspiration. Il avait les deux pieds dans la conspiration. Et sans doute que le madras était aussi de la conspiration. Quelqu'un qui ne conspirait pas, c'était le vicomte Joulou, la brute. Il avait achevé son poulet, dont pas une bribe ne restait. On a de ces appétits entre Jocelyn et Ploermel. Après le poulet, il avait même mangé un restant de bœuf, comme entremets sucré, pour achever son pot de bière. Maintenant, il dévorait un fromage de maroilles qu'il arrosait d'un grog très foncé, gardant le restant de la burette pour son café noir. Il était de mauvaise humeur, croyez-le bien. Il avait déjà 10 fois pour le moins fait le voyage du couloir. Il buvait en grondant, il mangeait en fermant les poings. La chanson que l'étude de banc radotait là-bas à la tour de nez, entêtement héroïque, le mettait en colère. Ses joues étaient brûlantes, ses yeux avaient des filets de sang. Il était ivre. Et l'idée fixe de son ivresse solitaire était que l'autre Buridan venait lui rendre sa position. Corne-bœuf, sa grosse tête se montait là-dessus, et à chaque coup de grog, il voyait l'avenir au travers d'un deuil plus rougeâtre. Il se passait dans le salon pendant cela quelque chose comme une veille d'armes. Marguerite, sans révéler aucunement le secret de cette fantastique conspiration, saignait à Roland l'épée du mystère et le nommait son chevalier. Le pauvre page, subjugué et bien autrement ivre que Joulou, prenait au sérieux toutes ces momeries d'amour. Et peut-être y avait-il quelque chose au fond des momeries, car Marguerite était jeune et femme. Une fois admis le point de départ romanesque, cette mission périlleuse qui rehaussait encore l'adoré dans son imagination d'enfant, Roland se jetait à corps perdu dans le plein océan des rêves. Il était bien l'homme de son costume, l'aventurier hardi, cherchant partout le tapis vert où l'on joue sa vie sur un coup de dé. À ses côtés, presque dans ses bras, il y avait le plus éblouissant des enjeux, une femme souverainement belle, séduisante, entraînante, et qui parlait de vaincre en lui parlant d'aimer. Roland n'était plus sur la terre. Le souffle de la merveilleuse créature touchait ses tempes comme un feu. Elle avait des regards qui le poignaient et qui le transportaient au ciel. Entre eux, les paroles tombaient rares et brèves, car Marguerite buvait aussi, goutte à goutte, l'ivresse qu'elle versait. « Il y a si longtemps, dit-elle, que j'avais peur de t'aimer. » Sa voix languissait comme une plainte. Roland se mit à genoux, car il faut bien en arriver là. Les mains de Marguerite frémirent dans les boucles électrisées de sa chevelure. Et tout à coup, cette violente vibration de tout son être s'arrêta, comme par enchantement. Au premier instant, Roland ne s'en aperçut pas. Son attention était prise par un accident inopiné. Il était arrivé en effet quelque chose, peu de choses. Dans le mouvement qu'il avait fait pour se mettre à genoux, le seul bouton qui attachait son pourpoint s'était rompu. Du pourpoint ouvert, le portefeuille de Thérèse s'était échappé. Il était à terre. Les billets de banque se dispersaient sur le parquet. Si vous aviez interrogé Roland, il vous eût dit en conscience que les yeux de Marguerite ne s'étaient pas détournés de ses yeux, tant fut rapide et furtif le regard qu'elle darda au billet tombé. Roland n'aurait peut-être pas ramassé le portefeuille tout de suite, mais Marguerite se leva brusquement en disant « Il fait si chaud ici, j'étouffe. » Elle alla ouvrir la croisée. Roland remit les billets de banque dans le portefeuille et le serra. Marguerite, penchée au balcon, plongeait un regard attentif dans l'ombre du boulevard. Sa joue était livide, mais ses yeux brillaient toujours, quoique ce fût d'une autre flamme. « 20 000 francs, murmura-t-elle en elle-même. Non seulement ce regard furtif avait vu, mais il avait compté. Marguerite pensa encore, « J'ai 20 ans passés, c'est l'heure ou jamais. »